Savoir comment prier est une chose plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est vrai d'abord pour tous ceux qui ont du mal à prier, et pour cela, il faut certainement expliquer de quoi il s'agit et comment l'on fait. Et pour ceux qui prient naturellement, il est certainement important aussi de bien réfléchir. En effet, la spontanéité n'est pas toujours gage de vérité ou de qualité, et l'idolâtrie comme la superstition sont des dérives qui nous menacent tous. Ceux qui sont chrétiens ont de la chance. En effet, le Christ lui-même a donné un enseignement tout à fait explicite sur la prière que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 13. Voici donc ce que dit Jésus. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, celui du ciel, que sanctifié soit ton nom, qu'arrive ton règne, que soit faite ta volonté, comme au ciel ainsi soit la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain, remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, et même délivre-nous du malfaisant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. De l'enseignement de Jésus que l'on vient d'entendre, on peut apprendre plusieurs choses essentielles. La première et la plus simple, c'est ce que dit Jésus de ne pas prier sur les places pour être vu, etc. Oui, la prière, ce n'est pas quelque chose que l'on ferait pour faire bien, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et qui apporte à celui qui prie, parce qu'il se met dans une relation personnelle avec Dieu. Ensuite, Jésus condamne la prière des païens, qui pensent qu'à force de réclamer à Dieu, ils finiront par être exaucés. Car, dit-il, Dieu sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Cela nous prend certainement plus de front dans notre propre pratique. En effet, pour beaucoup de gens, la prière, c'est avant tout de la demande. Et d'ailleurs, dans le langage courant, une prière, c'est une réclamation, comme on dirait prière de s'essuyer les pieds avant d'entrer. Et pour beaucoup de chrétiens, prier, c'est demander, demander et demander à Dieu en pensant que finalement Dieu fera ce qu'on lui demande. Mais si l'on veut bien entendre cet enseignement de Jésus sans chercher à en tordre ou en masquer le sens, il faut bien penser que finalement, ce genre de prière, de demande ou de réclamation, c'est fondamentalement un type de prière païen. Alors bien sûr, il peut y avoir une place pour une certaine demande dans la prière, mais pas pour demander n'importe quoi. Dieu n'est pas avant tout un distributeur de chances, de bonnes choses ou de cadeaux, cadeaux qu'il ne donnerait qu'à ceux qui auraient fait preuve d'assez de foi ou de persévérance dans la prière. Il est vrai que le Notre Père nuancera cela en montrant que l'on peut demander certaines choses à Dieu, mais justement, pas n'importe quoi. Et l'exemple du Notre Père est, je crois, donné par Jésus pour montrer ce que l'on peut demander et comment il convient de demander. Mais à propos de ces prières de demande, que penser de ceux qui, par un bel élan de générosité, prient ou font des réunions de prière pour demander des choses à Dieu, comme la paix ici ou là dans le monde, par exemple? Il est vrai qu'une certaine conception de la prière d'intercession qui voudrait nous faire croire qu'il faudrait demander des choses à Dieu avec le plus de ferveur possible, en étant les plus nombreux possibles, ne serait-elle pas critiquable? Pense-t-on vraiment que c'est en fonction du nombre de ceux qui prient ou de la ferveur de leurs demandes que Dieu finalement offrirait enfin la paix à des peuplades souffrantes ou la nourriture à celles qui meurent de faim? Ou alors, Dieu comptabiliserait-il le nombre des chrétiens qui prient, et refuserait-il de faire quoi que ce soit si le nombre de demandes était insuffisant? Ou encore, pouvez-vous croire que si votre enfant est malade, Dieu peut le guérir, mais qu'il attend que vous le lui ayez demandé avec suffisamment d'insistance ou de foi pour le faire? Dieu pourrait-il rester impassible et laisser mourir votre enfant en prétextant que vous n'avez pas prié assez souvent ou assez bien de le guérir? Non, là, je suis d'accord avec le Christ, ou je le comprends comme ça, en tout cas. Ce serait du paganisme, et je ne peux pas concevoir un Dieu qui agirait de la sorte. Si Dieu pouvait guérir mon enfant, il le guérirait, parce qu'il l'aime et parce qu'il m'aime. Et Dieu ne peut que vouloir et faire le bien. Et refuser de faire un bien, c'est faire du mal, ce que je ne peux pas attribuer à Dieu. Alors ce genre de demandes matérielles, je crois que ce sont des demandes païennes, qui fonctionnent finalement comme les religions primitives avec les sorciers. Alors voilà, on fait des danses de la pluie pour les cultures, on fait des sacrifices à Dieu pour obtenir ce dont on a besoin, soit la fécondité de son épouse, la santé de ses enfants, une bonne récolte. Et puis alors il faudrait aussi marchander avec Dieu, savoir demander comme il faut, pour que Dieu soit content et que finalement il nous donne ce qu'il aurait toujours pu nous donner mais qu'il nous refusait. Non, ça n'est pas ma religion. Et de toute manière, comme le dit le Christ, Dieu sait très bien de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Et ce n'est même pas la peine de le lui demander. Si Dieu nous aime, il ne va pas nous refuser la vie, le bonheur, ou la santé de nos enfants quand nous en avons besoin. Oui, je l'avoue, mais je comprends que l'on puisse ne pas être d'accord avec moi, je l'avoue, pour toutes ces raisons, je suis fondamentalement opposé à toute prière de demande matérielle. Alors c'est vrai néanmoins que l'on pourrait objecter qu'il y a dans la Bible, comme dans Luc 11, un passage sur la prière qui semble dire le contraire, en incitant à réclamer, réclamer sans cesse, et qui conclut en disant « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas ?» etc. Et au fait, quoi? Combien à plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas quoi? Qu'est-ce que le Père Céleste pourra nous donner si nous savons le lui demander? C'est là la question. Et précisément, le texte de Luc donne la réponse. Et ce n'est pas n'importe quoi que le Christ nous promet par la prière, mais c'est, dit-il, le Saint-Esprit à qui le lui demande. Et donc il ne s'agit pas d'un exaucement matériel, mais bien de donner le Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit et ne peut que se donner lui-même à ceux qui le cherchent. Nous avons encore la même chose dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 7, quand Paul dit « Faites connaître à Dieu toutes vos demandes par des supplications, etc. » Et alors, quelle est la conclusion de ce texte? Ce n'est pas « Et Dieu vous donnera tout ce que vous avez réclamé », mais Paul conclut en disant « Et Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Oui, une fois encore, s'il peut y avoir de la demande dans la prière, ce ne peut être que dans le domaine des choses spirituelles. Alors qu'est-ce que Dieu peut nous donner? Non pas n'importe quoi, mais ce qui est conforme à sa nature de donner, c'est-à-dire les dons de l'esprit. Et les dons de l'esprit, ce n'est pas le compte en banque, ni le beau temps pour le week-end, ni même la santé physique ou une longue vie. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, Jésus aurait été privé de bien des dons de Dieu, n'ayant eu ni une longue vie, ni de l'argent, ni des possessions, ni la gloire, ni même des enfants, puisqu'il a été privé de descendance. Ce que Dieu nous donne, ce sont les dons de l'Esprit. Et ces dons, on peut les trouver, par exemple, dans cette lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 22, quand il dit « C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, l'inspiration, la consolation, la force, l'espérance, et avant tout, c'est l'amour. » Oui, c'est cela, et seulement tout cela, je crois, que nous devons attendre de Dieu. Et comment Dieu donne-t-il tous ses dons? Est-ce que pour cela aussi, il serait inutile de demander, puisque Dieu sait très bien que nous avons besoin de tous ces dons spirituels? Eh bien non, justement. parce que je crois que la prière, cela ne consiste pas à essayer de modifier Dieu, mais plutôt de s'ouvrir à Dieu. Parce que prier et demander, c'est se mettre en position de recevoir. C'est dire à Dieu, « Vois-tu, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. » Et nous la recevons de lui, puisque Dieu est une source de paix qui est sans arrêt offerte et disponible pour nous. Dieu est une puissance rayonnante de justice, de joie, de paix, de force, de pardon et de vie, et tout cela est sans cesse projeté vers nous. Mais pour recevoir ces choses-là, il faut encore que nous ouvrions les bras pour recevoir tous ces dons. Si nous tournons le dos en pensant à autre chose, alors ces dons vont glisser sur nous sans que nous puissions rien retenir. La prière, c'est se tourner vers Dieu et lui dire « Seigneur, je meurs de soif. » Et c'est ouvrir la bouche. Alors, il remplit notre bouche de son eau vive. La prière, c'est se mettre en disposition de recevoir. C'est ouvrir son cœur, se tourner vers ses dons et se mettre en disposition mentale, spirituelle, telle que nous puissions effectivement les recevoir. La prière, c'est donc plus quelque chose qui agit sur nous que sur Dieu lui-même. Non, la prière n'agit pas sur Dieu, mais elle agit sur notre relation à Dieu. La prière, c'est ce que décrit le Christ dans ce même enseignement, quand il dit « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Oui, c'est cela la prière avant tout. C'est un moment d'intimité avec Dieu, c'est un moment de communion, de rapprochement avec lui, où l'on est là dans le dialogue avec lui. Et c'est cela que va approfondir l'exemple de la prière du Notre Père qui est ensuite donnée par le Christ. Le premier mot en grec, c'est « Père ». Et là, il y a une chose essentielle. C'est que Dieu est pour nous un Père parfait, un Père idéal. Il est celui qui nous écoute, qui nous comprend, qui compatit, qui nous donne tous ses dons. Et plutôt que de réclamer, la prière, c'est plutôt de tout partager avec Dieu et de tout lui dire. Et c'est peut-être là que nous pouvons trouver le sens de la prière d'intercession. Parce que nous pouvons, je crois, dire à Dieu dans la prière tous nos besoins et nos désirs matériels. Et même si je ne suis pas très persuadé que cela serve à quelque chose de prier Dieu pour les peuplades qui meurent de faim dans le monde, parce que ce n'est pas Dieu qui va leur envoyer des sacs de riz, néanmoins, nous pouvons partager avec Dieu nos préoccupations les plus fortes. Et nous pouvons dire à Dieu dans la prière « Tu vois, Seigneur, il y a là des guerres, il y a là des gens qui meurent de faim ou de violence. Eh bien, Seigneur, cela me rend malade. Et je veux te dire combien j'aimerais que cela cesse et combien je suis bouleversé par cette situation. » Ou alors, on peut encore dire à Dieu, « Tu vois, il y a là mon enfant qui est malade et tu sais combien j'aimerais qu'il guérisse. » Oui, on peut partager tout cela avec Dieu, parce que je crois qu'il n'y a rien que l'on ne puisse dire à Dieu ou partager avec lui. Et même si nous sommes en proie à un désir matériel, à un désir qui est faux, qui est contraire à l'Évangile même s'il y a quelque chose comme cela, nous pouvons toujours le partager avec Dieu dans la prière, précisément parce que la prière peut, d'une certaine manière, transformer ce désir, le réorienter, le remettre à sa juste place pour nous montrer qu'il était peut-être faux ou nous ouvrir à autre chose ou nous inciter à agir d'une manière ou d'une autre à partir de là. Oui, la prière, prier, c'est vraiment nous exposer nous-mêmes, c'est exposer toute notre vie, tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on aimerait faire, tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on aimerait avoir ou ne pas avoir, tout ce que l'on craint, tout ce que l'on redoute, et même tout ce que l'on déteste, et même tout ce que l'on hait dans ce monde, en soi ou chez les autres. Prier, c'est porter tout cela à Dieu, c'est l'exposer au regard, au rayonnement de Dieu, au souffle créateur et purificateur de Dieu. C'est pourquoi il faut accepter de se laisser transformer par la prière. Parce que la prière ne transforme pas Dieu, mais transforme celui qui prie. Oui, ce que je n'aime pas dans la demande monolithique du genre « Seigneur, guéris mon enfant », c'est que je suis là, moi, en refusant de changer ma position. « Voilà ce que je veux, Seigneur, il faut que tu obéisses. C'est à toi de faire ce que je veux, c'est aux événements de s'accorder à ce que je désire, et c'est à eux de changer, pas à moi. » Alors que de dire simplement « Seigneur, mon enfant est malade, et tu sais combien j'en souffre », c'est donner la possibilité même que ma propre demande, ma propre relation aux événements ou à mon enfant puisse être modifiée et recréée par la présence et la puissance de Dieu. C'est là une chose essentielle. La prière, c'est une communion avec Dieu. La prière, c'est quelque chose de fondamentalement individuel et personnel, à l'image de Jésus lui-même, qui est sans cesse montré dans l'Évangile, se retirant seul dans la montagne pour prier Dieu, seul à seul. Et pourtant, il y a encore une autre leçon dans ce Notre Père. Une leçon par le deuxième mot du texte grec, « notre ». Et ce mot « notre » en lui-même pose question. En effet, cette prière du Notre Père est entièrement au « nous ». Ce n'est pas « pardonne-moi, donne-moi mon pain quotidien », mais c'est « pardonne-nous, donne-nous notre pain quotidien ». Alors certains disent que c'est normal que cette prière soit au « nous », puisque c'est une prière communautaire. Mais si l'on pense, comme je le fais, qu'il faut comprendre le Notre Père dans la suite logique de l'enseignement qui le précède dans Matthieu, alors non, il n'y a pas de prière communautaire. « Quand tu pries, dit le Christ, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et quand tu es là, tout seul avec Dieu dans le secret, tu diras ainsi « Notre Père ». Et donc, chaque chrétien dit tout seul et en lui-même « Notre Père ». Et c'est là quelque chose de très fort qui nous est enseigné. C'est que prier, c'est non seulement essayer d'apprendre à être en communion avec Dieu, mais c'est aussi apprendre à se sentir solidaire des autres. C'est apprendre à faire grandir son amour pour les autres. C'est une façon de rompre son propre égoïsme. Et évidemment, en fonction de cela, on peut comprendre que prier, ce ne peut être de demander à Dieu une sorte de favoritisme, du genre « Seigneur, je t'en prie, protège mon enfant qui est sur la route afin qu'il n'ait pas d'accident ». Sous-entendu, les autres, ils peuvent crever, ça ne me dérange pas. Il y a 8000 morts par an sur la route, tant pis, mais pas le mien. Non, la prière ne peut pas être cela. Si vraiment j'ai de l'amour pour mon prochain, je ne peux pas dire à Dieu « protège mon enfant et laisse mourir les autres ». Ce n'est pas possible. Et c'est là un grand enseignement de la prière du Notre Père. Dans le simple fait qu'elle soit au « nous », prier n'est pas demander une faveur à Dieu, parce que l'amour de Dieu ne peut pas se vivre sans l'amour du prochain, et l'amour de Dieu ne peut se vivre que dans l'abandon de son propre égoïsme. On ne peut pas prier Dieu pour soi tout seul, mais il faut que la prière soit toujours une force pour aller vers les autres, pour accomplir le plan de Dieu. Alors soit l'on prie pour soi-même, mais alors, pour agir dans le monde, soit l'on prie pour tout le monde. Mais on ne peut pas s'enfermer tout seul dans son égoïsme en prétendant prier Dieu. Ce genre de prière ne serait pas chrétienne. Et pourtant, c'est vrai que le Christ priait aussi parfois au « je ». Et moi aussi, également, bien sûr. Mais non pas comme une réclamation. Plutôt comme une façon de se tourner vers Dieu. Prier, ce n'est pas demander à Dieu d'agir à notre place, ou même d'agir seulement pour nous, mais c'est chercher un partenariat, une communion avec Dieu. Prier, c'est s'unir à Dieu pour bénéficier, c'est vrai, de sa force, de sa présence, de son pardon, de sa libération, de son dynamisme de vie, de paix, de joie et d'amour, mais tout cela pour que nous sachions être en relation harmonieuse avec lui et aussi avec nos prochains. Prier, c'est s'unir à Dieu pour que nous puissions vivre et agir avec lui dans le monde et avec les autres de la meilleure manière possible. Prier, c'est simplement se laisser transformer par Dieu, qu'importe les mots, qui n'ont finalement que peu d'importance, tant que nous ne demandons pas à Dieu ce qui n'est pas dans sa nature de donner. Oui, c'est simplement être en contact, en communion avec Dieu. Prier, c'est juste recevoir de Dieu et se sentir envoyé en mission. Et si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. Nous chantons le psaume 107, les deux premières strophes.